Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous propose Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Orange.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Cette semaine, l'Agence française de développement, l'AFD, fêtait ses 75 ans. Une cérémonie a eu lieu au musée du Quai Branly mardi dernier et le président de la République, François Hollande, y a pris la parole.
Jamais les écarts de destin entre les plus riches et les plus pauvres n'ont été aussi grands. En 2016, 1 milliard de personnes continuent de vivre avec moins de 1 dollar par jour. Nous avons donc voulu donner une nouvelle impulsion à la politique de développement, avec un objectif de cohérence, d'efficacité et de transparence. Pour que notre aide publique puisse être aussi bien ciblée que possible, aussi utile que nécessaire.
Cohérence, efficacité, transparence, utilité de l'aide publique, c'est l'ambition de François Hollande. Mais ces mots correspondent-ils à la réalité de l'aide publique au développement ? Au cours de l'heure qui vient, nous allons nous demander si cette aide est efficace, si les fonds débloqués par les pays riches sont bien utilisés, s'ils servent à maintenir privilèges et prébendes, à conforter des situations acquises, ou si ces milliards de dollars et d'euros produisent réellement du développement. Et pour répondre à ces questions, trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Hubert de Milly.
Bonjour.
Hubert de Milly, vous êtes chargé de mission à l'AFD, à l'Agence française de développement dont on parlait à l'instant, au sein de la division, alors j'ouvre les guillemets, agenda de l'aide et partenaires internationaux. Vous suivez les questions de redéfinition de l'aide publique au développement. Vous êtes par ailleurs ingénieur agronome, docteur en économie. Vous avez beaucoup fréquenté le Mali et l'Inde, mais vous avez aussi travaillé sur ces questions d'aide au développement au sein de l'OCDE, donc un fil rouge de votre carrière, l'aide au développement. C'est une vocation pour vous ?
Oui, j'ai commencé tout petit, j'ai travaillé mon premier job outre-mer, j'avais 23 ans, à Ouaigouya, au Burkina Faso.
Et depuis ?
Et depuis, bah écoutez, oui, j'ai eu la chance de travailler dans 5 pays africains et en Inde, comme vous le disiez, et à l'OCDE, je travaillais sur un groupe qui a créé la conférence de Paris sur l'efficacité de l'aide et puis ensuite les conférences d'Accra et de Busan, dont on parle encore, et qui avait effectivement l'efficacité de l'aide comme fil rouge.
Et ce groupe s'appelle ?
Il s'appelle maintenant le Partenariat mondial pour une coopération au développement efficace.
C'est court comme d'habitude. Avec nous également dans ce studio, Michael Siegel. Bonjour Michael Siegel.
Bonjour.
Je dis Michael parce que vous êtes né anglais. Vous êtes chargé de plaidoyer sur l'aide publique au développement au sein de l'ONG Oxfam. Oxfam qui est une ONG née en Grande-Bretagne, à Oxford. Mais vous êtes tout jeune, mais quand on étudie votre parcours professionnel, on vous trouve déjà en Zambie, au Guatemala, en Amérique latine, dans les territoires palestiniens occupés, puis au Secours islamique France, et maintenant à Oxfam. Le terrain, c'est fini ? Vous voilà dans les bureaux maintenant ?
Pour le moment, en tout cas, j'aurai toujours des missions courtes. Là, je m'apprête à aller au Mali en mars pour 10 jours. Mais l'essentiel, c'est de me focaliser à Paris, puisque maintenant, je veux mettre la pression sur les décideurs et ils sont ici.
Alors je termine ce premier tour de table par vous, Laurent Bigot, bonjour.
Bonjour.
Laurent Bigot, vous êtes un ancien diplomate français, vous avez surtout exercé en Afrique de l'Ouest, au Mali en particulier. Et est-ce que la gestion de l'aide française au développement faisait partie de vos attributions ?
Oui, je l'ai pratiqué pendant mes 15 années dans la diplomatie, donc je pourrais vous en parler plus longuement. Je l'ai pratiqué à la fois à Paris et sur le terrain.
C'est-à-dire, c'est distribuer des chèques ?
Distribuer des chèques, non, je ne les faisais pas, je n'ai pas les moyens, mais d'organiser la politique d'aide publique au développement, oui.
Alors, au cours de cette émission des reportages, bien sûr, nous irons en Haïti rejoindre Amélie Baron, au Burkina Faso, retrouver Yaya Boudani et au Rwanda, où nous attend Stéphanie Aglietti. Question que j'adresse peut-être d'abord à vous, Hubert de Milly. Pourquoi l'aide publique au développement est-elle considérée comme nécessaire ?
À l'origine, c'est parce qu'on considérait que la capacité d'épargne des pays du Sud n'était pas suffisante et que donc les flux financiers devaient être un petit peu activés par la puissance publique. Aujourd'hui, on est un petit peu au-delà de ça, mais il reste des situations où effectivement les capacités d'épargne sont très faibles, les capacités fiscales des pays sont très faibles, où il y a un besoin de complémenter ces capacités. Mais l'aide, c'est aussi bien autre chose que ça, c'est des apports techniques, des apports institutionnels, des échanges qui permettent aux pays de progresser un peu plus vite que s'il n'y avait pas d'aide.
Pourquoi l'aide publique au développement est-elle nécessaire, Laurent Bigot ?
Moi, je pense que justement, il faut sortir de ce schéma-là et penser qu'elle n'est pas nécessaire, et c'est à partir de là qu'elle deviendra vertueuse. À partir du moment où on considère qu'elle est acquise, qu'elle est nécessaire, on développe des schémas d'irresponsabilité, et l'aide publique au développement a développé d'abord l'irresponsabilité à la fois des donneurs et des receveurs.
Michael Siegel.
Pour nous, chez Oxfam, elle est nécessaire parce qu'il y a des besoins encore énormes sur le terrain, et elle est nécessaire parce qu'elle fonctionne également. Donc, contrairement aux attentes, aux perceptions générales, sur les 20 dernières années, 1 milliard de personnes sont sorties de l'extrême pauvreté. Donc, elle fonctionne si elle est utilisée efficacement.
Mais ce 1 milliard de personnes qui est sorti de l'extrême pauvreté, il y en a beaucoup en Chine. La Chine qui a connu un développement exponentiel au cours des dernières décennies. Et l'aide au développement, que je sache, n'y est pas pour grand-chose.
Alors, en partie, c'est dû, en effet, à la croissance en Chine. Mais également, on a constaté des progrès en Afrique. Le taux de mortalité lié au paludisme a été réduit de 58% entre 2004 et 2014. Ça a permis de sauver la vie de 6,2 millions de personnes, principalement des enfants. Ça, c'est grâce à l'aide publique au développement, notamment à travers le Fonds mondial.
Hubert de Milly, cette Chine, est-ce que ce n'est pas un contre-exemple de la nécessité de l'aide au développement, de son rôle, de son importance ?
Écoutez, je crois que la Chine était un pays développé bien avant l'Europe occidentale. Chaque pays avance à son rythme. Mais moi, je suis un peu de l'avis de Michael. C'est difficile, effectivement, de passer de l'anecdote à des données un peu macro. Mais ce qu'on observe, c'est toutes les études convergent pour montrer que, globalement, il ne faut pas rêver sur l'aide et qu'elle va transformer tous les Burkina Faso en Singapour, mais que l'impact, les effets sont globalement positifs. On parle du extra 1%, je pourrais vous expliquer ce que c'est.
Bah, expliquez-le tout de suite.
On considère que sur les 30 dernières années, l'aide dans les pays qui ont beaucoup bénéficié d'aide au développement, le retour sur l'investissement aurait permis à peu près d'accélérer l'aide telle que mesurée par la croissance du PIB, aurait permis donc d'améliorer la croissance de à peu près 1% par an dans tous les pays qui en ont bénéficié.
Donc pas 1% mal. Par an, c'est...
C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4% de croissance, on en avait eu 5, par exemple. Alors, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu? Tout dépend de ce qu'on en attendait. On peut considérer que c'est peu. En fait, les économistes considèrent que c'est déjà pas mal.
Laurent Bigot, c'est beaucoup?
Je sais pas, c'est les chiffres. Alors après, quand vous lisez les études, c'est difficile de juger de la pertinence. Moi, j'ai juste une expérience de terrain et puis aussi en administration centrale à Paris. Et je considère que l'aide publique au développement a échoué parce qu'on ne lui a jamais fixé de terme. Or, l'ambition de l'aide publique au développement, c'est de s'arrêter. C'est qu'elle a réussi quand elle s'arrête. Or, aujourd'hui, on n'en fixe pas le terme. Et surtout, ceux qui fixent les agendas mondiaux et qui produisent des études sont ceux qui ont intérêt à ce que ça continue. Donc il faut se poser les bonnes questions.
Vous voulez dire que Hubert de Milly et Michael Siegel, ici leur travail, leur salaire mensuel dépend de ce que l'aide publique au développement continue ?
Non, mais vous parlez des success stories. Les success stories, elles s'expliquent d'abord par une volonté politique endogène des pays concernés. C'est d'abord ça, ouais. Ça vient pas de l'extérieur.
Je vois Hubert de Milly qui opine de la tête.
J'ai pas de honte, hein. Effectivement, je suis salarié de l'AFD, donc mon salaire compte en aide publique au développement, et je suis très content que mes compétences servent à l'aide au développement et pas à fabriquer des armes.
Un exemple concret d'aide publique au développement, dans un quartier de Ouagadougou au Burkina Faso, la ville a bénéficié d'une aide de 15 millions d'euros de l'AFD, votre agence, Hubert de Milly. De nouvelles routes et des équipements de proximité ont été construits. L'objectif, c'est de décongestionner le centre-ville de Ouagadougou, et c'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Yaya Boudani, dans la capitale burkinabé.
Près du tiers de la population de Ouagadougou vit dans les quartiers périphériques. Cette population occupe 40% du territoire communal. C'est pour leur faciliter l'accès au centre-ville que la commune et ses partenaires ont mis en place le projet de désenclavement des quartiers périphériques. Valentin Bayiri est le conseiller technique du maire central de Ouagadougou.
À travers ce projet, nous avions pu réaliser 30,5 km de voirie. Donc, ça a permis de bitumer près de 17 km de voie et de construire des voies en terre de 12 km. Nous avions aussi réalisé des ouvrages de franchissement qui ont permis de désenclaver des quartiers qui étaient inaccessibles.
Serge Ouedraogo et ses hommes préparent le matériel pour la construction des latrines dans les ménages situés dans les quartiers à habitat spontané, communément appelés quartiers non lotis. Ces latrines sont financées par le projet de désenclavement des quartiers périphériques.
Il y a une subvention qui est là. Et la subvention prend en charge à hauteur de 86-90% la latrine. En gros, aujourd'hui, nous sommes à 3888 latrines réalisées. Avant l'arrivée de notre projet, il y a des sites communément appelés sites de défécation où toute la population se rendait pour déféquer.
Les deux factures font 6764.
Ok, ça marche.
À quelques pas du magasin de matériel sont situés des guichets. C'est ici que chaque mois, Yacouba Guira, comme tous les autres habitants du quartier, viennent payer leur facture d'eau. Avec une contribution de 30 000 francs CFA, environ 45 euros, chaque foyer dispose de l'eau courante. La gestion de ce réseau dédié au quartier périphérique est déléguée au bureau d'études des recherches appliquées. Marcel Ouedraogo en est le chef d'exploitation.
La délégation de Borgo fonctionne avec un réseau de 29 km, 32 bornes fontaines et 6146 branchements privés.
Cela fait quelques années que l'eau coule du robinet de la famille Guira. Avant la construction du réseau d'eau potable, les habitants du quartier parcouraient environ 4 km pour s'approvisionner.
Avant d'arriver de l'eau, vraiment c'était un calvaire. Honnêtement, c'était un calvaire. On a notre charrette à deux roues là. C'est là que les enfants partaient jusqu'en ville pour chercher de l'eau. En tout cas, on avait des problèmes souvent, 4h du matin, 3h du matin. Et ça perturbait même vraiment l'étude des enfants.
Suite au succès enregistré avec ce projet, les partenaires techniques et financiers entendent apporter une nouvelle aide financière d'environ 80 millions d'euros à la commune de Ouagadougou en vue de transformer certains quartiers en centre-ville secondaire.
Un reportage à Ouagadougou signé Yaya Boudani. Laurent Bigot, ça c'est de l'aide concrète, c'est efficace ?
C'est de l'aide concrète, mais on a un ambassadeur en Afrique de l'Ouest qui, il y a un an, a fait un sondage sur la survie des projets à 5 ans après l'arrêt de subventions internationales. Et il a tiré au hasard dans le portefeuille français plusieurs projets et ils étaient tous morts. C'est-à-dire que le grand drame de l'aide publique au développement, c'est qu'elle ne prévoit souvent pas la survie du projet une fois que l'aide extérieure cesse. Or, l'ambition de l'aide, c'est qu'un jour, cette aide cesse et que les projets continuent à vivre.
Hubert Lemini, vous êtes un peu mis en cause, là, enfin, votre agence. Sur la pérennité des projets financés par des investissements semblables à ceux qu'on vient d'entendre.
Écoutez, ça, c'est typiquement le genre de projet, celui qu'on vient d'entendre, qui, à mon avis, dans 5 ans, sera toujours là. Investir dans les infrastructures urbaines d'une ville en plein développement, c'est ce qu'il faut faire, c'est probablement ce qui est le plus rentable. Et dans 5 ans, on verra même plus ce qui a été fait sur tel financement ou sur tel autre financement. L'important, c'est que, mais ça va un peu dans le sens de ce que dit Laurent, c'est le plus important derrière tout ça, c'est pas l'investissement lui-même, c'est la capacité de la municipalité à gérer ses affaires, à prévoir son plan d'investissement, à gérer les investissements qui ont déjà été réalisés. Et ça, je sais qu'à Ouagadougou, ça se passe très bien, et c'est comme ça que les choses...
Mais sur cette remarque de Laurent Bigot, que 5 ans après l'intervention des bailleurs de fonds, la plupart des projets sont... à l'abandon.
Alors ça, c'est pas du tout mon expérience personnelle, mais là encore, on est anecdote contre anecdote.
C'est pas une anecdote, pas beaucoup, c'est un rapport.
5 au hasard pris par un ambassadeur. En plus, monsieur a parlé de subventions. Nous, on travaille plutôt sur des investissements sur prêts, donc qui sont de toute façon remboursés en grande partie par le bénéficiaire. Le bénéficiaire, s'il rembourse, c'est qu'il s'est approprié les infrastructures.
Michael Siegel pour Oxfam.
Alors chez Oxfam, on est d'accord sur l'idée que l'aide, au final, doit servir à renforcer la capacité des pays à prendre en main leur destin. Donc ils ne peuvent pas rester indéfiniment dépendants de l'aide française. Donc du coup, l'aide française peut venir renforcer les capacités administratives, politiques, pour une fiscalité juste et progressive, pour que les pays développent leur propre capacité de financement et qu'ils soient plus dépendants de l'aide française au développement.
Laurent Bigot, l'Afrique s'est beaucoup développée ces 30 dernières années, surtout depuis 15 ans. On parle de pays qui vont bientôt accéder à l'émergence ou qui sont émergents. Quel rôle, selon vous, a joué l'aide publique au développement dans ce phénomène ?
Oula, la question est bien complexe. Je pense qu'il faudrait quelques heures d'émission radio pour
pouvoir
répondre.
Oui, on les a pas.
Mais...
donc
non, je pense que oui, on parle de l'émergence, mais ça aussi, c'est un peu des concepts gadgets. C'est du marketing. Il faut dépasser le.
C'est du marketing de bailleurs de fonds.
Mais c'est du marketing pour attirer des investissements étrangers. C'est vrai que l'Afrique s'est développée. C'est vrai que l'Afrique attire des investisseurs étrangers. Mais il faut le replacer dans son contexte. L'Afrique n'est pas encore l'Eldorado que tout le monde décrit. Les investissements étrangers directs en 2015 pour l'Afrique, c'est 38 milliards de dollars. C'est-à-dire autant que ce qu'a reçu la Belgique cette même année. Donc on a un continent d'un milliard de personnes qui reçoit autant que ce que reçoit la Belgique. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des ressources endogènes. Et hier, il y avait la conférence des bailleurs de fonds organisée par le Burkina Faso.
Absolument.
Et la ministre
à Paris,
et la ministre des Finances a dit quelque chose de très juste. Elle dit « Nous devons avoir une politique fiscale ambitieuse pour trouver les ressources chez nous pour financer notre propre développement. » Et le véritable enjeu aujourd'hui pour les pays africains, c'est de financer avec leur argent leur propre développement et avoir une politique fiscale ambitieuse pour que désormais chaque Africain dise « Je paye avec mon argent et je demande des comptes à mes leaders politiques. »
Hubert Dominici.
Ah ben on est complètement d'accord avec ça, appuyer les pays à avoir leurs propres ressources, à avoir leur propre épargne d'abord, leur propre épargne privée, leur propre épargne publique sous forme de ressources fiscales, c'est la priorité. Ça a été répété pendant l'année 2015, au, tous les sommets à New York, à Addis Abeba. On est d'accord là-dessus, ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Mais ceci dit, ça n'est pas du tout exclusif d'investissements étrangers, ni privés, ni publics.
Michael Siegel.
Et vous disiez, c'est important, ces ressources, elles existent dans ces pays. Je vais vous donner un exemple. Rien qu'en 2012, le Niger a perdu 16 millions d'euros à cause des exonérations de TVA accordées à Areva, qui est l'exploitant de l'uranium depuis 40 ans dans ce pays. Donc si on renforce les capacités de pays comme le Niger à taxer les entreprises multinationales qui exploitent les ressources minières dans ces pays-là, ils auront suffisamment de ressources pour... fournir des services essentiels comme la santé, l'éducation aux personnes qui en ont besoin.
Laurent Bigot.
Oui, je pense qu'il faut faire attention avec ce débat parce que pour bien connaître le dossier Areva au Niger, il faudrait aussi que le pouvoir nigérien commence à taxer les grands commerçants qui financent l'activité politique et qui, eux, s'exonèrent de tout paiement de taxes et qui sont parfois même pas inscrits au registre du commerce, mais qui bénéficient de marchés publics. Donc le vrai sujet, c'est l'équité d'abord. Et plutôt que de focaliser sur montrer du doigt des entreprises étrangères, il faut, je pense, avoir une politique fiscale ambitieuse et universelle.
Des économistes et non des moines, je pense par exemple à quelqu'un comme Philippe Aguillon, considèrent que les pays qui s'en sortent le mieux sur le plan du développement ne sont pas ceux qui reçoivent le plus d'aide. Vous en pensez quoi, Laurent Bigot ?
Le Mali est un bon exemple. On parle souvent d'un plan Marshall pour l'Afrique. Le Mali, avant la chute du président ATT en 2012, recevait à peu près 1 milliard de dollars d'aide publique au développement pour un PIB estimé à peu près à 10 milliards. Donc 10% de son PIB venait de l'extérieur. Le plan Marshall en France, après la Seconde Guerre mondiale, c'était 3% du PIB. Donc le plan Marshall pour l'Afrique, il a eu lieu depuis longtemps. Que reste-t-il de ces milliards de dollars aujourd'hui au Mali ? Rien.
Michael.
Le problème aussi, c'est que l'aide, elle est mal fléchée. Un quart de l'aide française va aux pays les moins avancés. Donc c'est les pays qui ont le plus de besoins. Mais du coup, en fait, le problème en France, par exemple, c'est que l'Agence française de développement fait essentiellement de l'aide, puisque c'est une banque, sous forme de prêt. Et qui dit prêt dit prêter à des pays solvables. Et donc, du coup, ce sont des pays à revenus intermédiaires, là où les besoins sont les moins importants.
Hubert Dominici ?
Bah oui, tout à fait. Effectivement, on ne va pas aller endetter au-delà du raisonnable des pays qui ont déjà des problèmes d'endettement et qui, par ailleurs, sont pauvres. Donc, c'est vrai que pour les pays les plus pauvres, genre Mali ou Burkina, on préfère autant que possible utiliser les subventions, mais on a moins de subventions que de prêts. Et puis, le prêt par lui-même a quand même pas mal de vertus. Gérer le remboursement d'un prêt, c'est quelque chose qui est assez vertueux, qui met l'accent sur la rentabilité de l'investissement. C'est pas forcément pour les mêmes destinations. Il n'y a rien de plus rentable que d'investir dans les infrastructures urbaines. Donc ça, pour un prêt, c'est bien. C'est rentable aussi d'investir dans l'éducation et la santé, mais la rentabilité financière est moins évidente à capter. Donc ça, c'est quand même difficile de faire ça sur des instruments de prêt. Donc on préfère plutôt le faire sur subvention.
Nous en parlerons de ces questions d'éducation en particulier dans la deuxième partie de l'émission Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Nous parlons de l'aide publique au développement, de son efficacité et nous nous retrouvons dans 3 minutes environ après un flash d'actualité.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI.
Retrouvez Écho d'ici, Écho d'ailleurs après le Flash Info avec Orange Monnaie. Orange. Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous propose Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Orange.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, à l'occasion du 75e anniversaire de l'Agence française de développement, nous nous interrogeons sur l'efficacité de l'aide publique au développement. Cette aide sert-elle vraiment à réduire la pauvreté et favorise-t-elle l'émergence des pays pauvres ? Trois invités autour de ce micro pour en parler, Hubert de Milly, chargé de mission à l'AFD, Laurent Bigot, consultant ancien diplomate français, et Michael Siegel, chargé de plaidoyer au sein de l'ONG Oxfam. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons commencé à discuter de cette efficacité de l'aide publique au développement, une aide qui n'a pas empêché les inégalités de se développer au galop dans les pays qui sont sortis de la très grande pauvreté. On parle beaucoup de développement durable. Est-ce que l'aide publique au développement ne devrait pas d'abord se focaliser sur la lutte contre ces inégalités, Laurent Bigot ?
Je pense qu'on devrait d'abord réfléchir à des sujets qui ne nécessitent pas forcément de décaisser de l'argent. Je pense notamment à l'accès des marchés européens et américains pour les pays africains. Le domaine de l'agriculture. L'agriculture africaine ne peut pas absolument pas être compétitive sur le marché mondial au regard des subventions versées par l'Union européenne et par les États-Unis à leur propre agriculture. Ce sont des sujets qu'on préfère escamoter. Ça coûte pas d'argent de permettre des accès au marché européen. Deuxième sujet, je pense que la priorité absolue pour la solidarité internationale, c'est l'éducation en Afrique. Au Mali, entre 2005 et 2035, ils vont multiplier leurs dépenses de santé et d'éducation par 11. Aucun pays ne peut faire face seul à ça, et ça c'est la démographie qui l'explique. Or, l'éducation est assez désertée aujourd'hui du champ de l'aide publique au développement.
Mais sur la question des inégalités ?
Les inégalités, après, c'est une volonté politique endogène. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour la communauté, parce qu'on appelle ça la communauté internationale, de fixer l'agenda mondial. C'est à chacun des pays aussi d'avoir une ambition politique en la matière. Ce n'est pas à nous de le fixer pour les pays africains.
Hubert Demy ?
Oui, sauf que il y a quand même une nouveauté sur ce sujet qui est intéressante. L'année dernière, à New York, avec les objectifs de développement durable, la communauté internationale a décidé, a fixé à l'unanimité que les inégalités au sein des pays étaient un mal mondial qui convenait de lutter contre.
D'enrayer,
oui. Alors évidemment, on considère que quand il y a développement sorti de la pauvreté extrême, dans la pauvreté, tout le monde est à peu près égal, ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs, mais qu'avec le début du développement, les inégalités s'accroissent. C'est vrai qu'on l'observe un peu partout, c'est pas forcément inéluctable. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que ça va tous nous pousser dans les études d'impact et des interventions à porter plus d'attention aux répartitions attendues des revenus au cours de projet.
L'un des reproches qui est fait souvent à l'aide publique au développement, c'est qu'elle est trop souvent, en particulier en Afrique, confiée aux seuls États et que les populations n'en sont que les bénéficiaires indirects. C'est en tout cas ce que disait mardi dernier, lors de la cérémonie du 75e anniversaire de l'Agence française de développement à Paris, Hindou Oumarou Ibrahim, qui est la coordinatrice de l'association des femmes peules autochtones du Tchad. On l'écoute au micro de l'animatrice de ce débat ce soir-là.
L'AFD travaille seulement avec les pays, avec les États. Mais non, ceux qui mettent les actions sur le terrain, c'est la société civile, c'est la population. Et c'est eux qui connaissent cette action.
Merci mille fois.
C'est la société qui est à la cœur de ces réalisations. Maintenant, nous avons plein de projets sur l'énergie renouvelable. Et je sais que l'AFD a fait magnifiquement ici une démonstration sur les projets des énergies renouvelables. Mais attention, nous ne voulons pas des projets des énergies renouvelables qui vont accaparer les terres, qui vont faire des grands barrages pour détruire l'environnement. Nous voulons des projets à petit niveau qui peuvent bénéficier directement à ces populations qui en ont besoin et qui peuvent changer la vie de ces peuples qui vont marcher désert et désert rien que pour rechercher leur survie. On mérite mieux que survivre, on mérite vraiment de vivre.
Vous en pensez quoi, Laurent Bigot, de cette remarque ? Plutôt nous aider nous directement que passer par les États ?
Je pense qu'elle décrit en fait un des effets pervers de l'aide publique au développement, c'est qu'on ne sait plus où sont les responsabilités. Et moi, je dis toujours à mes amis africains, les premiers et d'ailleurs les seuls responsables à qui vous devez demander des comptes, ce sont vos dirigeants politiques. Mais cette aide publique au développement, comme c'est plus l'argent de ceux qui donnent et c'est pas vraiment l'argent de ceux qui reçoivent, on sait jamais si c'est de la faute des dirigeants politiques, de la communauté internationale, même si je sais pas très bien ce que ça veut dire. La réalité, c'est que les dirigeants politiques africains sont comptables de tout ce qui se passe dans leur pays. Et désormais, il faut leur demander à eux d'avoir une ambition politique sur ces sujets-là.
Hubert Demilly, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, je suis d'accord, mais il faut aller un petit peu plus loin que ça. C'est que, au titre du respect de la souveraineté des États, qui est absolue et qu'on ne souhaite surtout pas remettre en compte, d'ailleurs sinon on serait taxé de néocolonialisme ou je ne sais quoi, il ne faut pas non plus que les bailleurs se dédouanent de leurs responsabilités. J'ai parlé tout à l'heure de l'impact des interventions sur les inégalités, il y a aussi des impacts sur les relations institutionnelles dans les pays, en particulier la principale d'entre elles, la relation entre un État et sa population. Quand on intervient, il faut savoir où est-ce qu'on intervient. Le renforcement des institutions, leur capacité à répondre et à dialoguer avec leur propre population, c'est probablement l'essentiel. Et ça, ça doit faire partie de l'analyse des interventions.
Michael Segel, cette jeune femme décrivait une aide finalement qu'elle critique parce que elle ne la concerne pas directement, elle ne l'atteint pas directement. Qu'est-ce qu'Oxfam en pense ?
On est entièrement d'accord avec le diagnostic. En fait, l'aide, pour être plus efficace, il faut que les pays se l'approprient. Et c'est pas seulement les gouvernements, c'est les sociétés civiles. Donc, les pays donateurs doivent soutenir les sociétés civiles pour qu'elles-mêmes puissent demander des comptes à leur propre gouvernement.
Mais on le fait. Et d'ailleurs, on n'hésite pas non plus, quand c'est possible et quand la législation le permet, à utiliser des outils financiers qui ne s'adressent pas directement au gouvernement, mais aussi à des entités non gouvernementales, publiques ou privées. À l'AFD, on arrive à une cinquantaine de pourcents maintenant de financement dit non souverain. Ça veut pas dire privé, mais ça peut être non souverain.
C'est-à-dire qui n'est pas donné aux États.
Ce sont des outils bancaires, c'est-à-dire que le prêt n'est pas accordé directement à l'État ou il est redirigé de l'État vers une autre entité. Ça peut être une collectivité locale, ça peut être une entreprise publique ou privée,
Michael,
banque, etc.
Michael,
je voulais réagir par rapport à ça. Oui. Le montant total de l'aide bilatérale française qui va directement aux ONG, c'est 100 millions d'euros. Cela représente seulement 1% de l'aide. Alors que la moyenne européenne, c'est 15%. Il y a des pays comme l'Irlande, c'est 33% qui transitent directement aux ONG. Donc je pense que la France peut encore faire des efforts à ce niveau-là.
Alors, ça sera un autre débat, à savoir si la société civile se résume aux ONG. Mais pour l'instant, on part en Haïti, l'un des pays les plus pauvres au monde, où l'Agence française de développement, toujours elle, Hubert Demilly, est aussi à l'œuvre. Exemple avec ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Amélie Baron à Martissant, un des quartiers de Port-au-Prince.
En contrebas de la petite place réaménagée, des enfants jouent au foot. Une route bétonnée facilite aujourd'hui l'accès à ce coin du quartier de Martissant. Ça ne semble pas être grand-chose, mais Joanne Pierre-Louis, qui habite ici, assure que c'est une révolution.
Avant, c'était pas bon du tout.
Avant, la situation n'était pas bonne du tout. Les motos ou les voitures ne pouvaient pas circuler ici. Et après 5 ou 6 heures le soir, les gens ne sortaient plus, ils avaient peur. Maintenant, ils profitent de l'espace à 10h, 11h, même jusqu'à 1h du matin. Les gens peuvent vivre et ils sont contents du développement de la zone.
Cette réhabilitation est approuvée car avant que le premier sac de ciment ne soit ouvert, les habitants de Martissant ont participé à l'élaboration du plan d'aménagement du quartier. Bénédicte Gazon, directrice de l'AFD en Haïti, justifie cette politique pour un projet qui est financé jusqu'en 2017.
C'est un projet qui fait 30 millions d'euros, dont 10 ont été apportés par la France et 20 par l'Union européenne. Alors évidemment, ce n'est pas une réponse totale et globale aux besoins du quartier. En revanche, ce qui nous a semblé intéressant dès le début, c'est d'améliorer les conditions de vie des gens dans leur quartier, contrairement à d'autres politiques qui étaient de construire de nouveaux quartiers ailleurs, plus loin. Martissant, Bayergeau aussi sont des quartiers historiques de la ville qui ont toujours compté. En revanche, effectivement, on doit compter avec l'existant. Donc les interventions ne sont pas forcément spectaculaires ou de grande ampleur, mais à chaque fois, c'est de la négociation avec les habitants du quartier pour éventuellement qu'ils nous laissent reculer leur mur d'un mètre pour qu'on puisse faire un petit passage ou une mobilette pourra passer ou en cas de problème, une ambulance peut amener un brancard, etc., etc. C'est de la négociation et c'est effectivement un petit travail de fourmi mais qui compte quand même pour améliorer la vie des habitants.
Ce travail de fourmi, c'est le credo de Jean Villeneur Junior Oscar, animateur de la Fondation Focal, l'une des organisations moteurs du projet communautaire.
Il y avait des gangs, il y avait des problèmes entre les quartiers. On peut dire que c'était une aubaine de mettre tout le monde ensemble, puis de réfléchir ensemble pour l'avenir et de Martissant, de ce projet même. Le travail communautaire, c'est un travail de longue haleine, que ce soit pour sensibiliser les gens et sur l'importance de se mettre ensemble, mais également pour qu'il y ait un changement de comportement. Il faut inculquer les gens le sens de la citoyenneté. C'est quoi le bénévolat? L'importance de s'impliquer pour l'avenir de notre communauté. Le travail qui se fait avec eux et pour eux. Les gens qui vivent de l'autre côté, ce ne sont pas nos ennemis, on peut vivre ensemble tout ça.
Faire discuter ensemble les gens des différentes zones de Martissant est un défi du quotidien, mais indispensable pour que les places et terrains de sport réaménagés restent en bon état au fil des années.
Dans ce reportage signé Amélie Baron à Port-au-Prince, on entendait une de vos collègues, Hubert de Milly, expliquer qu'il fallait négocier avec les habitants du quartier Martissant de Port-au-Prince pour éventuellement reculer un mur d'un mètre. Est-ce que c'est vraiment le rôle d'une organisation comme l'AFD de négocier ce genre de questions directement?
Alors peut-être pas directement le personnel de l'agence à Port-au-Prince, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que lui prenne en compte le fait qu'il va y avoir besoin de cette négociation et que ça va coûter de l'argent. Avoir quelqu'un d'une ONG ou de l'État, ou je ne sais pas, ça dépend des endroits, qui va prendre le temps de faire discuter les gens, de leur faire prendre la bonne décision, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Et ce n'est pas simplement un coût. C'est pas un coût d'intervention, c'est pas quelque chose qu'il faut éliminer pour faire plus d'investissement. Non, ça, en soi-même, c'est un investissement. Quand on a compris ça, on devient beaucoup plus efficace, je vous garantis.
Laurent Bigot,
il y a parfois des discours, moi, qui me dérangent un peu, c'est que souvent, quand on parle de l'aide publique au développement, on entend des gens qui ne sont pas issus des pays concernés dire ce qu'il faudrait faire dans ces pays. Or, moi, mon expérience de terrain, c'est quand vous laissez parler les gens, c'est-à-dire quand vous leur mettez une page blanche devant eux, ils ont beaucoup d'idées très intéressantes, très simples, mais dans le bon sens du terme, et qui sont parfois assez éloignées des conceptions des grands développeurs. Donc ça, c'est le premier point. C'est un discours, alors je vais pas, le terme condescendant, c'est peut-être un peu fort, mais j'ai parfois un peu ce sentiment quand j'entends parler les gens. Et puis, il y a un autre point, moi, qui me choque beaucoup, et Haïti en est la parfaite illustration, c'est le train de vie des organisations internationales chargées du développement. Après le tremblement de terre à Haïti, il y a des milliards de dollars qui ont été fléchés dans ce pays. Combien sont arrivés réellement au bout du compte auprès de la population? J'étais à Dakar en début de semaine, je suis passé devant les agences des Nations Unies. Rien que la valeur du parc automobile de ces agences permettrait de sauver tellement de vies, permettrait de développer tellement de choses. Et je trouve vraiment indécent ce train de vie. Et c'est là qu'on voit que les logiques endogènes de ces institutions parfois l'emportent sur la réalité et sur l'objectif final.
Michael Sejel.
Pour réagir sur ce point, je pense que une des solutions, en fait, pour tacler ce problème, c'est de rendre les données sur l'aide plus complètes, plus accessibles et plus compréhensibles pour permettre aux sociétés civiles des pays en développement d'interpeller justement les bailleurs sur ces questions que vous soulevez.
Alors c'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de l'aide publique au développement et de son efficacité avec trois invités, Laurent Bigot, consultant, Michael Sejel de l'ONG Oxfam et Hubert de Milly pour l'Agence française de développement. L'Agence française de développement qui fêtait son 75e anniversaire. Et à cette occasion, on a eu la confirmation par le président François Hollande de la montée en puissance de l'aide publique française au développement, 12 milliards d'euros par an d'ici à 2020.
Donc les capacités d'intervention de l'AFD seront renforcées par des fonds propres, 2,4 milliards d'ici la fin de l'année. Et en 2020, l'AFD pourra engager chaque année 12 milliards d'euros, dont 5 pour le climat. Nous avons également voulu, au niveau de l'État, augmenter le budget que nous consacrons aux dons. Et nous avons pu le faire grâce à la taxe sur les transactions financières.
Mais cette augmentation de fonds ne fait pas tout. Parfois, des bailleurs misent trop sur la quantité, pas assez sur la qualité. Écoutez ce que disait la semaine dernière à ce micro Sylviane Guillaumont-Jeannenet, la cofondatrice du Centre de recherche sur le développement international à Clermont-Ferrand.
Il y a eu un très gros effort des bailleurs de fonds en faveur de l'éducation. Les taux de scolarisation ont notamment augmenté. Mais très curieusement, quand on regarde ce qui se passe, on s'aperçoit que depuis quelques années, 4-5 ans, l'effort de la communauté internationale en matière d'éducation s'est réduit. On a moins dépensé pour l'éducation. Et d'autre part, les gouvernements, mais aussi les bailleurs de fonds, parce que c'est plus facile à justifier, ont voulu faire du quantitatif, c'est-à-dire augmenter les taux de scolarisation. Mais on ne s'est pas beaucoup préoccupé de la qualité.
C'était Sylviane Guillaumont-Jeannenet, cofondatrice du CERDI. Les ONG militent toujours pour plus d'aide, mais mieux d'aide, ce serait pas plus mal, Michael Siegel?
Absolument, on milite pour les deux. Bon, déjà, ces engagements me font sourire, puisqu'on entend beaucoup d'engagements pour plus d'aide, mais la réalité, c'est que sur le quinquennat de François Hollande, les crédits budgétaires pour l'aide publique au développement ont été coupés de 20%. Ça représente 700 millions d'euros. Donc oui, il faut plus d'aide, et il faut la rendre plus efficace, absolument.
Laurent Bigot,
une façon de la rendre plus efficace, c'est aussi de faire attention à qu'elle ne soit pas détournée aussi au service d'autres intérêts que les intérêts des plus pauvres.
Laurent Bigot, mieux d'aide.
Oui, mieux d'aide, parce que c'est vrai que quand on se fixe des objectifs quantitatifs, notamment en termes de montants, c'est la course à l'échalote. Alors avant, c'était 0,7% du PIB, maintenant on annonce des chiffres. C'est vraiment un objectif de communication politique, là on voit bien, c'est-à-dire que ça sert que ça d'ailleurs, ça, c'est juste un objectif de communication politique. Moi je fais partie de ceux, j'ai vécu très longtemps en Afrique, je pense que l'Afrique n'a pas besoin de notre aide. Je crois vraiment en l'Afrique, et je pense que l'Afrique n'a pas besoin de notre aide. Elle n'est pas indispensable. Elle peut être utile, mais elle n'est vraiment pas indispensable. Et je pense que si on se met dans cet état d'esprit, enfin, on va voir les choses comme elles doivent être vues.
Hubert Demilly, vous en pensez quoi? L'Afrique n'a pas besoin de votre aide?
Mais écoutez, on peut dire aussi, en France, on n'a pas besoin de l'aide sociale. L'aide sociale, elle fait que rendre les gens assistés, dépendants, et qu'elle a...
Non, c'est pas de l'aide extérieure. La France reçoit pas de l'aide
extérieure. Oui, mais on vit dans des sociétés qui redistribuent en interne 30, 40, 50% de leur PIB, et on s'offusque quand ce soit fixé de redistribuer 0,7% du PIB des pays de l'OCDE. D'ailleurs, on le fait pas.
Le PIB, c'est le produit intérieur brut.
On le fait pas, on est à la moitié, et encore, on trouve que c'est beaucoup trop et que ça rend les pays dépendants. Enfin, de qui se moque-t-on? C'est pas vrai. Enfin, dire, on n'a jamais dit qu'il n'y avait que l'aide au Mali. Les Maliens pourraient effectivement se débrouiller très bien. On dit simplement qu'avec les différents programmes d'aide, ben, il y a un petit peu de solidarité internationale, que ça peut contribuer à rendre la vie plus facile, à mettre plus d'enfants à l'école, à faire que les femmes perdent moins d'enfants en bas âge, qu'il y ait que les transports soient plus faciles, etc. Ça pourrait se faire sans, ça se fera sans, et ça se fait sans, mais ça se fait encore mieux avec. Je disais, si on gagne 1% de croissance par an, ben écoutez, c'est toujours ça, c'est très bien.
C'est énorme, c'est même énorme.
Oui, c'est énorme, oui, oui, oui.
Michael Siegel, débat.
C'est surtout qu'on parle de l'aide, mais il faut réaliser que très peu d'aide va directement sur le terrain, puisque aujourd'hui on se rend compte que l'OCDE est en train de discuter d'inclure dans le critère de définition de l'aide publique au développement les coûts qui sont liés aux formations du personnel militaire dans les pays en développement ou la prévention de l'extrémisme violent. Pareil, il y a des pays comme la Suède qui intègrent les coûts d'accueil des réfugiés dans leur APD. Alors finalement,
dans leur aide publique au développement.
Dans leur aide publique au développement. Du coup, l'aide publique au développement de la Suède, le premier pays qui reçoit cette aide, c'est la Suède. Donc du coup, c'est pervers. Et un autre exemple, c'est que le comité interministériel pour la coopération internationale pour le développement s'est réuni le 30 novembre dernier à Paris et a déclaré qu'il fallait améliorer les retombées de son aide pour les acteurs économiques français. Non, l'objectif, ce serait d'améliorer les retombées de notre aide pour les acteurs économiques locaux. C'est comme ça qu'on va lutter contre la pauvreté, pas en mettant nos entreprises au cœur... au cœur des intérêts.
Laurent Bigot, vous en pensez quoi de cette position? Vous l'incluez dans votre critique, l'ONG, les ONG, vous les incluez dans votre critique?
Non, mais moi, une nouvelle fois, le principe de solidarité est un principe noble. Moi, je constate juste que ce principe-là a été dévoyé dans l'aide publique au développement. C'est ça que je constate. Et je pense surtout que, puisque on parle, oui, il y a de la redistribution en France et il y aura de la redistribution en Afrique, mais les ressources sont en Afrique. Et c'est ça qu'il faut d'abord chercher et qu'il faut avoir à l'esprit. Aujourd'hui, on est souvent dans la justification, dans l'annonce, la communication politique. On fait ci, on fait ça, le périmètre de l'aide. Plus personne n'y comprend rien. Effectivement, comme le dit Michael, on commence à mélanger des torchons et des serviettes dans la comptabilité. On fait de la communication politique. On fait de la communication politique. Mais en attendant, on parle souvent de gens qui sont dans la difficulté et les choses sont beaucoup plus simples que ce discours-là. Et si on commençait vraiment à croire dans la capacité de ce continent de se sortir d'affaires tout seul, je vous le dis, j'insiste vraiment là-dessus, c'est le début d'une nouvelle ère.
Mais Hubert Demilly vous dit 0,7%, c'est peanuts, ce qu'on apporte par exemple au Mali ou aux pays africains.
Mais la question, c'est pas 0,7, 3, 4, 5, c'est quelle efficacité, quel impact? Est-ce que ça sert à quelque chose? C'est ça la vraie question, est-ce que ça sert à quelque chose?
Vous savez, Votre aide sert, Hubert Demy ?
Écoutez, sinon, je crois que j'aurais changé de métier depuis longtemps. J'en suis complètement persuadé. Et à la limite, d'ailleurs, moi, j'ai un petit peu quelque part dans la tête l'idée que c'est pas aux pays développés qui font de l'aide d'aller s'auto-censurer en disant ce que je fais n'est pas utile. On pourrait même dire, écoutez, quand on partage, c'est à celui qui reçoit de décider si c'est utile ou pas. Le devoir de celui qui donne ou qui finance, c'est de financer.
Alors, certains bailleurs de fonds posent des conditions à leur aide. Vous le savez, on appelle ça les conditionnalités. Et dans l'Afrique des Grands Lacs, le Rwanda a essuyé des critiques croissantes pour l'autoritarisme du gouvernement Kagame. Conséquence, il y a 4 ans, en 2012, une partie des aides a été suspendue. Depuis, le pays tente de s'affranchir de cette manne étrangère. On retrouve les éléments de la discussion qu'on vient d'avoir. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Stéphanie Aglietti à Kigali.
Fin 2014, alors que le Rwanda est une nouvelle fois critiqué à la suite de la suspension des programmes dans le pays de la BBC en langue locale, le président Paul Kagame s'en prend violemment aux donateurs étrangers qu'il accuse d'interférer dans les affaires du pays.
Personne ne devrait dire aux Rwandais ce qu'il faut être. Bien sûr, il y a des gens qui disent « Nous vous donnons notre argent, donc nous devons vous dire ce qu'il faut faire ». Mais il arrive un moment où vous vous dites « D'accord, entre mes droits, ce que je veux être et votre argent », eh bien, vous pouvez reprendre votre argent.
Un discours récurrent qui puise sa véhémence en 2012. À cette époque, le Rwanda est accusé par l'ONU de soutenir la rébellion du M23 dans l'est de la RDC voisine. Les principaux donateurs étrangers gèlent alors une partie de leur aide au pays. Les effets sont quasiment immédiats. Le taux de croissance du Rwanda chute de 8,8% en 2012 à 4,7% en 2013. En réaction à cette suspension des aides, Kigali met sur pied un fonds souverain nommé Agaciro, Dignité en Kinyarwanda, et appelle tous les Rwandais à mettre la main à la poche pour soutenir l'État. Il est actuellement doté de quelque 46 millions de dollars. Jacques Kayonga en est son PDG.
Ce fonds a été créé à travers des contributions de particuliers, d'institutions, et plus récemment, le gouvernement a aussi apporté la sienne. À l'heure actuelle, l'argent a été investi dans des revenus fixes, principalement des dépôts et des titres du Trésor. Nous n'avons pas investi dans des projets d'infrastructure, mais nous avons l'intention de le faire.
Ce fonds reste une goutte d'eau dans l'océan de besoins du Rwanda, d'autant que les contributions s'essoufflent. Mais selon Pritish Bahurira, chercheur à l'École d'économie et de sciences politiques de Londres, au-delà d'un fonds, l'Agaciro a surtout été un formidable instrument politique pour le pouvoir rwandais à une période de vulnérabilité tant économique que politique.
Cette campagne a pour effet de liguer la nation contre une menace externe. L'Agaciro cible aussi la dignité des Rwandais individuellement. D'une certaine manière, il s'agit de les rendre responsables de leur propre développement. Avec pour message, si vous ne travaillez pas dur, vous êtes en quelque sorte en faute. C'est une idée très puissante. Cela a permis de discipliner les élites pendant cette période et de les empêcher de se retourner contre le gouvernement.
L'année suivante, les aides au Rwanda ont repris, mais non plus sous la forme d'aides budgétaires directes, mais d'appui sectoriel. Le pays cherche désormais de nouvelles sources de financement et tente d'attirer les investisseurs étrangers.
Alors, c'était un reportage signé Stéphanie Aglietti à Kigali. Et Hubert Demy, je vous voyais opiner du chef en écoutant ce reportage. Ça rencontre certaines de vos préoccupations. Est-ce que les conditions, les conditionnalités, comme on dit de manière un peu barbare, aident à l'efficacité de l'aide ?
Ce qui est sûr, c'est que pour travailler dans un pays, ça se passe beaucoup mieux quand le gouvernement est vertueux, ouvert, démocratique, gère proprement ses relations avec sa propre population, qu'il est issu d'élections et qu'il remet son mandat en jeu régulièrement. Sinon, alors, si c'est pas le cas, on est confronté à un tas de difficultés. Ne traiter qu'avec l'État, essayer de diversifier les canaux de financement. Et les dirigeants qui ont des problèmes internes sont toujours tentés d'accuser l'étranger de déstabiliser leur propre pays, de faire appel à la fibre patriotique. On connaît ça depuis toujours.
Mais ce qui est paradoxal, c'est que le Rwanda est considéré comme un des très bons élèves économiques de l'Afrique. Il est régulièrement salué par la Banque mondiale, le FMI et autres bailleurs de fonds.
Tout dépend de la qualité des institutions. Le Rwanda a énormément amélioré la qualité de ses services, des enfants, la qualité de l'école, de la santé, tout ça, c'est des choses très bien. Après, on sait très bien que le Rwanda aussi a un problème démocratique, disons-le. Et ça, il le résoudra tout seul.
Laurent Bigot.
Oui, ce que dit Paul Kagame, alors malheureusement, comme effectivement le régime rwandais dérive très largement vers l'autocratie, on n'écoute pas Paul Kagame, mais il dit des choses assez justes. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier le sentiment parfois d'humiliation qu'ont les populations africaines quand elles entendent parler de leur propre pays, mais de l'extérieur. Et je pense que ça, quand Paul Kagame dit ça, ça renvoie à un sentiment notamment de la jeunesse africaine, qui est très présent quand on est sur le terrain. Quand vous écoutez les jeunes Africains, ils vous le disent, ils n'aiment pas beaucoup comment on parle d'eux à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il faut...
Et ça nuit à l'efficacité de l'aide.
Non, mais c'est parce que c'est cette... Ils n'ont pas le sentiment que la relation soit d'égal à égal. Ils ont le sentiment qu'on les regarde un peu d'en haut. Et je parlais tout à l'heure de condescendance. C'est sûrement un terme un peu fort, mais en tout cas, dans le ressenti, notamment de la jeunesse africaine, c'est quand même ça qui est le sentiment dominant quand vous êtes sur le terrain. Et il faut faire très attention à ça, parce que ça devient du coup un effet pervers et ça a un impact très négatif sur l'aide publique au développement. Et surtout sur son efficacité.
C'est-à-dire?
À partir du moment où vous avez l'impression, c'est le président Atété, le président malien Atété, qui rappelait toujours pourtant son pays, qui était un pays très aidé, qui disait « N'oubliez jamais que la main qui reçoit est toujours en dessous de celle qui donne ». Ça en dit très long. Et quand vous avez ce sentiment-là, vous recevez pas l'aide de la même façon que si vous avez l'impression qu'elle est totalement déliée et qu'elle ne procède pas d'un sentiment de condescendance.
Michael Siegel, pour une dernière intervention courte.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Et en plus, les gouvernements ont pris des engagements à Paris, à Busan, à Accra, pour justement s'aligner sur les priorités du pays. Donc c'est absolument important que l'aide soit déliée. Et on voit encore des problèmes aujourd'hui où on conditionne, par exemple, l'aide à la rétention des migrants dans des pays comme la Turquie ou comme en Libye. Donc il y a encore des énormes efforts à faire à ce niveau-là.
Eh bien, cette émission est maintenant terminée. Merci à vous trois, Laurent Bigot, Hubert Demilly et Michael Siegel, d'avoir accepté l'invitation des RFI. Guillaume Munier a réalisé et mis en onde cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous a proposé Écho d'ici, Écho d'ailleurs.